Vous écoutez France Culture.
Terre à Terre, le magazine de l'environnement, on s'intéresse ce matin au petit éolien avec l'association Tripalium.
C'est un sacré boulot ça, hein ?
Ouais, heureusement qu'on est plusieurs à se relayer, sinon, surtout quand on n'a pas l'habitude, on ne sait pas trop faire, sinon on se découragerait, mais à plusieurs à se relayer...
Pourquoi se décourager ? C'est difficile ? C'est la première fois que vous faites
ça ? Ouais.
Raboter du bois ?
Raboter, ouais, à la plane, là. Ouais. Parce qu'au final, sur la planche, le bastin qu'on avait au départ, on en aura enlevé les trois quarts, quoi.
Ah, waouh !
Et le quart restant, ça sera la palme.
Mais ça fait combien de temps que vous êtes là-dessus ?
Depuis lundi matin.
Depuis lundi, il y en a un qui rabote tout le temps ?
Ouais, à peu près, ouais. Il fallait découper, prendre les mesures et tout, mais oui, on se relaie sur chacune des trois pales depuis lundi.
Bah heureusement que vous êtes nombreux.
C'est ça. Bon, après, un professionnel, j'imagine, irait beaucoup plus vite que moi, hein. Mais nous, on apprend en même temps.
Alors, Dominique.
Le bois me plaît bien, moi, c'est un matériau vivant. Ça me repose, en fait, de travailler le bois, voilà. Enfin, il n'y a pas à réfléchir. Voilà.
Il n'y a pas à réfléchir quand même. Il avait l'air très concentré. Enfin,
il faut faire très attention. Concentré, mais c'est reposant d'avoir, je veux dire, une activité manuelle vis-à-vis de tout ce à quoi on peut penser. Voilà.
C'est presque un hasard qu'on se retrouve dans ce grand atelier à Valence. En général, quand on vient voir Tripalium, ça se passe dehors. Dans un endroit assez venteux. Heureusement pour nous, c'est pas le cas aujourd'hui. Je dis heureusement pour nous parce que pour la radio, le vent, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Tripalium, ce sont des éoliennes. Alors aujourd'hui, on est en quelque sorte à la maison mère. Dans la maison mère, c'est ça. Et un stage a été organisé ici. Je dis la maison mère juste pour vous faire réagir. Gaël César, ça vous fait rire?
Oui, ça fait rire parce que je pense qu'au sein de l'asso, là, ça, il y a des cheveux qui vont s'hérisser sur les têtes si on dit que la maison mère est ici. Il y a historiquement, il y a un des créateurs de l'association qui se trouve ici et qui a monté une petite société dans ses ateliers et qui est également membre de l'association Tripalium.
Et qu'est-ce que fait cette association exactement ?
Donc l'association Tripalium, c'est autour du petit éolien, donc petit éolien de type Pigotte. Pigotte, c'est le nom du concepteur, là c'est un peu notre gourou entre guillemets, c'est l'Écossais qui a conçu cette machine. Et ensuite, nous on propage le savoir en fait, on essaye de diffuser au maximum ce savoir-faire, d'apprendre aux gens à construire les éoliennes, et à travers ce support, apprendre aux gens à bricoler finalement, donner des clés pour bricoler... Et avoir désacralisé un peu la technique et un objet qui paraît hyper complexe, une éolienne.
Alors je veux dire que la première impression, quand on arrive dans cet atelier où il y a une bonne dizaine de stagiaires, qui sont tous très différents les uns des autres, qui sont en train d'apprendre, c'est qu'on est dans un endroit bruissant de vie. Et on a le sentiment que la connaissance, elle est... pas du tout du côté de quelque chose de froid, de livresque, mais elle est vraiment dans le faire, dans les mains. Et dans une sorte de climat où tout le monde participe, que ça soit en regardant, en écoutant, en disant, en faisant, mais que tout le monde est impliqué.
Ouais, on peut même dire que nous aussi, en tant que formateurs, entre guillemets, en fait, on apprend aussi plein de choses parce que... Voilà, on met plein de personnes qui ont des parcours différents Et c'est vachement basé sur l'échange. Donc nous, on sait construire, en fait, on sait assembler ces pièces, mais dans chaque partie, on est loin d'être les personnes les plus calées. Il y a toujours des personnes qui savent, voilà, qui sont hyper spécialisées dans une des choses ou dans leur vie de tous les jours, qui font des trucs hyper chouettes. Que nous, on en est à milieu, donc c'est hyper riche aussi pour nous de ce côté-là.
Donc ce sont des éoliennes qui continuent à s'inventer au fur et à mesure qu'elles sont fabriquées. Gilles Longuet.
Moi, en fait, ce que je trouve le plus intéressant, effectivement, comme disait Gaël, c'est que nous, on a appris à construire ces machines-là. Mais effectivement, il y a toute la partie bois, par exemple, toute la partie métal. Ça permet à des gens qui ont des connaissances, en fait, qui arrivent pour eux apprendre à faire une éolienne. Il y en a qui arrivent qui ont un gros bagage dans le travail du bois, par exemple. Et moi, ça m'est arrivé sur un stage, par exemple, de passer une demi-journée entière avec quelqu'un qui était là et qui savait extrêmement bien affûter les outils. Et du coup, j'ai appris à réellement affûter mes outils à ce moment-là, quoi. Et c'était vraiment intéressant. Presque à chaque stage, il y a quelqu'un qui a beaucoup de bouteilles dans la soudure. Et du coup, il a plein de techniques pour apprendre aux autres. Et donc, c'est lui qui se retrouve aussi à bien expliquer, donner les petits trucs et astuces pour comment assembler les pièces, les caler, faire les premiers points, ce genre de choses. Et là, du coup, c'est plus nous qui expliquons, c'est les stagiaires qui s'expliquent entre eux. Et en fait, je crois que les stages, ils créent aussi ça. En fait, il n'y a pas un rapport de transmission qui est dans un sens. On apprend aussi, puis les gens, ils s'apprennent entre eux, en fait. Et c'est ça qui est super, l'échange, en fait.
Mais alors là, en vous écoutant, on s'éloigne un peu de ce que disait Gaël César au départ, c'est-à-dire aider les gens à surmonter leur peur d'un objet qui a l'air hyper technique. Là, quand on vous écoute, on se dit, mais alors, c'est que des pros, des gens qui connaissent admirablement.
Non, je dis, il y en a
toujours un.
Il y en a quelques-uns, en fait, par stage.
De même qu'il y a toujours le plaisantin de service.
Ouais, en fait, c'est... sur chaque stage, en fait, les stages, ils sont ouverts à tout le monde. Et du coup, il y a des gens qui arrivent qui n'ont jamais bricolé, et il y en a qui ont un gros bagage, en fait, que ce soit par leur activité ou parce que, juste, ils ont touché à plein de domaines ou quoi. Ils ont beaucoup de savoir, en fait. Mais il y a aussi des gens qui arrivent qui n'ont pas du tout un profil de bricoleur à la base, et du coup, ils apprennent, et là, ils viennent... apprendre différemment. Des fois, on se retrouve avec des personnes qui ont plus un parcours ingénieur, qui ont déjà réfléchi à tous les calculs de comment c'était possible, etc. Mais par contre, qui n'ont jamais touché un outil bois. Après, on va voir des gens qui, eux, par exemple, sont super bons soudeurs, mais qui n'ont pas de connaissances en électricité. Et donc, du coup, ils vont apprendre dans des domaines. On ne vient pas tous pour la même chose, en fait, sur ces stages-là.
Non, mais ce qui est frappant, c'est que on n'a pas l'impression d'un groupe éclaté, mais au contraire d'un groupe très cohérent. Même si, en effet, les gens ont des parcours différents, des niveaux de connaissances différents, on a l'impression qu'il y a de la place pour chacun. Marc Delisle.
Effectivement, on a toujours un public qui est assez ouvert. Du coup, on peut avoir toutes sortes de personnages, entre guillemets. Et en fait, aussi, ce qu'on met en place souvent comme pédagogie, c'est l'échange au sein du groupe lui-même. C'est-à-dire qu'on va expliquer peut-être quelque chose à quelqu'un, et cette personne va l'expliquer à 10 autres, etc. etc. Donc même si la personne au départ n'est pas spécialiste, elle va avoir les bases qu'on va lui transmettre, et ensuite pouvoir en parler à d'autres.
Et ça, est-ce que ce n'est pas déjà votre histoire à vous, les uns et les autres? Parce que vous avez évoqué tout à l'heure la figure du fondateur,
clairement...
Hugues Pigott.
Clairement, moi, la première fois que j'ai fait de la soudure, c'est un stage Tripalium, mon premier stage. Et aujourd'hui, j'ai progressé depuis. Donc ça m'a permis d'apprendre la soudure, alors qu'à la base, je venais pour apprendre à autoconstruire une éolienne. C'est un peu ça rejoint tout à fait ce que disaient Gaël et Gilou.
Est-ce qu'on pourrait revenir au début de l'histoire? Hugues Pigott, qui invente une machine. Gaël César, spécialiste.
Ouais, alors, l'histoire, c'est... donc, Hugues Pigott, il habite sur une presqu'île au nord de l'Écosse, donc il n'y a ni route, ni réseau pour aller là-bas. Je crois que c'est à peu près à l'époque 68 où ils sont installés là-bas, à plusieurs. Et lui, il en a eu, au bout de quelques années, un peu marre de la lampe à pétrole, des bougies... le côté pas pratique, le côté pollution, et ainsi de suite. Donc, il s'est intéressé, il y a une trentaine d'années... à faire des éoliennes, donc avec les moyens de l'époque, pas la diffusion internet, mais des bouquins et ainsi de suite. Donc il en a bricolé 7, qui n'ont pas marché, des essais successifs, des échecs, mais qui ont abouti à la 8e qui marche. Et donc là, ça n'a pas fait tout de suite effet boule de neige, mais assez rapidement, Donc tous ses voisins lui ont dit, bah, voilà, nous on en veut une, ou apprends-nous, enfin, montre-nous comment on fait. Après, il a commencé à écrire des bouquins là-dessus, et puis il s'est aperçu qu'il y avait des demandes de partout dans le monde pour transmettre ce savoir.
Qu'est-ce qu'elle était capable de faire, cette éolienne ? D'allumer le fer à repasser, une ampoule ?
Bah, elle était capable de produire les premiers besoins, en fait, on réfléchit sur l'électricité, on a finalement peu de besoins d'électricité, et ce qu'on appelle un peu les besoins spécifiques. Donc c'est de l'éclairage, c'est, on va dire, des ordinateurs ou ce genre de choses qui a vraiment besoin d'électricité pour fonctionner. Mais après, tout le reste, bon, les faire passer, mais on sait faire plein de choses, quoi. Le chauffage électrique, enfin voilà, on sait tous que c'est une aberration, il y a de façon bien meilleure de chauffer. Et c'est un peu partout pareil. La bouilloire électrique, c'est un luxe qu'on s'est mis, mais voilà, tout le monde avait une bouilloire sur le feu ou sur... ainsi de suite, quoi.
Mais donc, les besoins de base étaient couverts pour une maison avec une éolienne.
Voilà, ouais.
C'est ce que vous appelez le petit éolien.
C'est ça. Et après, bon, disons que le petit éolien, c'est un peu des cases. Enfin, il y a des histoires de ratio de puissance, on va dire. Et on peut faire plus que de l'éclairage. On peut être complètement en autonomie et même avoir des outils d'atelier... Non, c'est possible avec... Donc après, il faut des plus grosses machines, des plus gros systèmes de stockage, si on passe par le stockage, et ainsi de suite, quoi.
Et alors, justement, vous disiez qu'au bout de son 7e essai, enfin, du 8e, plus exactement, il s'est mis à propager, en quelque sorte, ce qu'il avait appris, mais est-ce qu'également, il s'est mis à grossir, à faire des éoliennes de plus en plus grosses, de plus en plus puissantes ?
Eh ben, pas tout à fait, en fait. Lui, l'idée, quand même, à travers cette machine, c'est de faire une machine qui marche, et qu'il soit facile à fabriquer. Après, il est aussi passé par la phase où il a créé une petite société, il faisait de l'installation, il a travaillé aussi pour des professionnels, aidé à concevoir, et il a eu des expériences qui ne se sont pas très bien passées. Il a fait des tests pour des gens, et puis il s'aperçoit qu'après, les résultats sont un peu biaisés, ou commence à avoir des normes en Angleterre. Donc, il lui demandait de passer des certificats pour attester qu'il s'est installé des éoliennes. Enfin, c'est une personne référence à travers le monde pour ça, et on lui demandait de passer un certificat. Enfin, voilà. Donc après, à un moment, il s'est dit, bon, fini tout ça, j'ai pas besoin, en fait, il y a plein de demandes de partout dans le monde, ça marche. Et la simplicité, en fait, simple is beautiful, quoi.
Elle est plus fonctionnelle, finalement, la simplicité que...
Elle est carrément plus fonctionnelle. Et de son expérience, c'était de voir que ce qui marchait en petit éolien, c'est à la portée, on va dire, de... Relativement tout le monde, un petit industriel, peut faire des éoliennes. Mais après, ce qui était compliqué, c'est d'arriver à faire des éoliennes qui durent dans le temps. Et là, il allie la simplicité, donc facile à réaliser, et le fait qu'elle dure dans le temps. Et ben, quand on l'a fabriquée, on sait comment ça marche. Donc on sait aussi réparer, quoi. Il y a aussi ce côté-là.
Force pas. Soulève un peu la machine.
Soulève la machine.
Mais quand je donne des indications, vas-y pas trop fort, juste léger, hop, un tout petit peu.
Ouais.
Si tu vas trop fort, du coup, hop, faut rattraper. Hop,
Je fais quoi là ?
Bah, on remercie l'autre d'avoir fait un autre. Ouais.
Et vous, pourquoi est-ce que vous avez envie d'apprendre à faire une éolienne ?
C'est un peu ouais, pour le plaisir, quoi. Ouais, c'est vrai qu'on apprend, on apprend plein de choses différentes. Ouais. La soudure, le travail du bois, l'électricité aussi.
Vous apprenez tout ça ou vous savez déjà un peu faire tout ça ? Parce que c'est beaucoup en 5 jours.
Ouais. Bon, on a un peu des notions, mais après on dégrossit, quoi. Il y en a qui savent déjà faire. Et puis il y en a qui apprennent, ouais. Du coup, c'est vrai que ça se complète, ouais.
Mais quand vous sortirez de là, c'est-à-dire dans pas longtemps, vous allez rentrer chez vous et faire une éolienne ?
Non, pas tout de suite. Non. Je pense qu'il faut faire plusieurs stages, ouais, pour arriver à être vraiment autonome, ouais.
Non seulement ça, mais quand on voit le nombre de personnes qui sont là et qui sont toutes très occupées, on se dit que c'est difficile de se lancer seul, non ?
Seul, il y en a pour un moment à tout faire, ouais. Ouais. Puis il faut du matériel aussi, ouais. C'est vrai que pour ça, cet atelier, il est bien, parce qu'il y a tout sur place, quoi. Ouais.
Ensuite, ce qui est intéressant, c'est cette démarche que vous avez commencé à expliquer, c'est-à-dire que... chaque personne qui a appris peut à son tour enseigner. Bon, c'est pas une obligation non plus, hein. C'est pas comme une chaîne dans laquelle, si vous ne renvoyez pas l'ascenseur à 10 personnes, il va vous arriver des malheurs, c'est pas ça. Mais En effet, celui qui a appris peut devenir formateur ou en tout cas aider. Et c'est un petit peu votre cas à tous? Ou bien est-ce qu'il y en a qui sont arrivés là par hasard? Marc Delisle.
Bah, par exemple, moi, c'est totalement mon cas. Hein. J'ai commencé par un stage à apprendre vraiment les bases. Et je n'étais pas spécialement bon bricoleur. Et c'est à force d'en faire que j'ai progressé pour arriver aujourd'hui à un stade où je suis capable d'expliquer clairement toutes les étapes. Mais on continue toujours d'en apprendre, que ce soit par les autres formateurs, parce que chacun son vécu, sa façon de voir, donc on échange par rapport à ça. Et comme disait Gilles tout à l'heure, c'est les rencontres pendant les stages, où parfois on va avoir un spécialiste de telle ou telle partie, et on va en apprendre énormément d'un coup.
Mais vous vous retrouvez toujours à plusieurs formateurs sur un stage?
Généralement, on est au minimum deux. C'est plutôt nécessaire. Le groupe, là, par exemple, on est sur une douzaine de personnes. Il y a trois ateliers qui tournent en même temps en permanence. Donc, ça demande quand même une certaine surveillance, entre guillemets. Mais c'est plutôt une aide à apporter à chaque atelier.
Trois ateliers qui sont complémentaires, pas parallèles.
Ah oui, ils sont complémentaires. Ils aboutissent tous à la réalisation d'une éolienne. Mais on les sépare en trois. Parce qu'il y a plus le bois d'un côté, plus tout ce qui est métal, soudure de l'autre. Et on a la partie moule et électricité qui fait un troisième atelier. Mais tous, au final, apportent une partie de l'éolienne qui va s'assembler. Donc effectivement, ils sont complémentaires.
Mais ça veut dire qu'un stagiaire n'apprend qu'un tiers de l'éolienne, Gilles Longuet?
En fait, non, c'est pas exactement ça. On sépare les ateliers, c'est pour un côté pratique, là, comme l'a dit Marc. Par exemple, la partie bois, la partie métal, la partie où on fabrique la génératrice avec les moules et tout ça. Mais en fait, le but, c'est qu'après, chacun, en fait, fasse son petit parcours là-dedans, en fait. C'est-à-dire qu'il y en a qui viennent parce que y a vraiment un truc qu'ils ne comprennent pas trop. Genre la génératrice, en général, c'est un côté un petit peu obscur pour plein de gens, l'électricité. Et donc, du coup, ça les intéresse bien de comprendre comment, en fait, avec juste des aimants et des bobines, on fait une génératrice, alors qu'en fait, beaucoup de moteurs sont faits juste avec des histoires d'aimants et de cuivre. Et après, il y a des gens, ils voient la sculpture des pales, genre sur une photo ou quoi, et ils se disent, mais c'est pas possible que je puisse faire ça, quoi. Donc ils sont hyper concentrés, mais ça les intéresse énormément. Mais après, en fait, chaque personne navigue, en fait. Elle fait une demi-journée à ce poste-là, à un autre-là. Enfin, c'est pas des postes vraiment définis, c'est plutôt des zones. Et du coup, les gens, ils se déplacent dedans au gré de leurs envies, en fait. Après, du coup, pourquoi c'est intéressant aussi qu'on soit plusieurs, c'est on peut pas tenir trois ateliers à une seule personne, en fait. Et si on veut être assez disponible, en fait, pour répondre à chacun, à toutes les questions, c'est intéressant d'être plusieurs. Et puis, soit on est un peu Superman, on essaie de le faire tout seul, mais moi, je pense que ça fatigue trop, en fait. Si on veut avoir assez d'attention, en fait, c'est important d'être plusieurs. Tout ce qui fait, en fait, l'intérêt de ces machines-là, c'est que si on veut qu'elles se... Moi, je trouve qu'elles se construisent par le groupe. C'est un peu le résultat de l'ensemble du groupe. Et même pour après, si on veut parler de l'installation et tout ça, en fait, ça coûte moins cher d'organiser un stage avec 15 personnes et faire venir 3 formateurs et faire une éolienne et l'installer que d'essayer de s'y mettre tout seul parce que c'est hyper compliqué. Ça prend à peu près un mois de temps tout seul à plein temps pour fabriquer une machine. Alors que là, on réunit plein de gens, on fait de la bonne bouffe, etc. C'est quand même vachement plus sympa.
Et du coup, en une semaine, c'est fait?
Ouais. Ouais, en une semaine, on fabrique la machine. Et quand on est chez quelqu'un, en fait, on essaie en une semaine de fabriquer la machine. Souvent, on a le mât à fabriquer, on câble toute l'électronique et après, on fait l'installation. On finit le vendredi ou samedi matin.
Parce qu'en général, c'est ça. Ça se passe chez quelqu'un qui veut une éolienne.
Ouais, c'est ça. La personne organise... on prend contact, on organise le stage... avec la personne chez elle. Du coup, on trouve des stagiaires, etc. Et après, le but, c'est qu'en général, la partie génie civil, elle est faite avant. Donc ça, c'est...
Qu'est-ce que vous appelez génie civil?
Génie civil, c'est la tranchée pour le câble électrique, par exemple, entre où va être mise l'éolienne et où est la maison. Et aussi, les plots pour fixer le mât, quoi. Et après, on fabrique tout le reste, en général, le mât, la machine, et on fait le câblage d'électricité, de l'électronique pendant la semaine.
Donc la personne qui va recevoir l'éolienne participe au stage aussi?
Ouais, c'est l'intérêt. C'est tout l'intérêt en fait du truc, quoi. Et du coup, la personne comme ça, elle connaît pas parfaitement, mais elle connaît sa machine. enfin, c'est un outil en fait, et du coup il faut apprendre à l'utiliser, et du coup d'apprendre à fabriquer son outil pour produire de l'électricité, c'est pour moi la meilleure façon de pouvoir l'avoir, en, enfin, l'avoir entre les mains et de savoir l'utiliser, quoi.
Marc Delisle ?
Non, juste je voulais ajouter, c'est tout à fait dans le sens de Gilles, en fait on autonomise les personnes en, lors de ces stages parce qu'ils ont toutes les compétences, entre guillemets, pour refaire la moindre partie de leur éolienne. Et du coup, c'est une démarche complètement différente que d'acheter un produit déjà tout fait par un industriel, où là, en fait, ils sont capables de refaire.
Je crois que ce qui m'étonne le plus, en fait, c'est que tout ça se passe sur un temps si restreint. C'est-à-dire 5 jours pour arriver à emmagasiner toutes ces connaissances, à suivre 3 ateliers, et 3 ateliers qui ne sont pas du tout statiques, puisque pendant ces 5 jours, ils avancent. Donc, vous parliez tout à l'heure de la circulation d'un atelier à l'autre, mais si vous avez commencé à vous occuper de la génératrice, par exemple, et que vous arrivez ensuite sur la partie métallique, ben, ils ont déjà avancé, donc il y a plein de choses qui ont été faites et que vous n'avez pas vues. Et puis après, vous allez faire un tour sur le rabot, et là, vous aurez aussi manqué un certain nombre d'informations ou d'éléments. Gaël César.
Moi, je dirais, c'est la force du collectif, en fait. C'est d'arriver à quelque chose qui apparaît justement insurmontable, en fait. Le fait qu'elle soit séparée en plein de parties, et aussi de rassembler plein de gens, en fait. On s'aperçoit qu'on peut faire plein de choses, quoi. Puis il y a une certaine... Bah, y a une magie un petit peu autour. Effectivement, on arrive le premier jour, il y a même des gens qui nous disent, mais enfin, qui doutent en fait, qui nous le transmettent, ce doute-là, qui sont là à dire que, mais vous pensez vraiment qu'on va finir? Et tous les soirs, ils sont là parce qu'ils voient que bah, ça avance, mais pas autant qu'ils penseraient. Alors ils sont là, est-ce que vous pensez qu'on est, on est dans les temps? Est-ce que ça va se faire? Et puis ça se fait à chaque fois en fait. Ça se fait à chaque fois parce que... Voilà, il y a un but commun, il y a même des gens qui sont complètement différents, qui ne seraient pas amenés à se rencontrer, qui ne seraient peut-être pas amenés à se côtoyer, qui peut-être se... Je sais pas, ils pourraient même pas fonctionner ensemble. Mais là, il y a un but commun, ils sont venus apprendre quelque chose, ils le font ensemble et ça fonctionne.
Et non seulement ça fonctionne, mais ils repartent avec, effectivement, en ayant acquis tous, toutes les connaissances nécessaires. Ou il ne faut pas exagérer quand même.
Ouais, je pense que toutes les connaissances nécessaires, c'est un peu... Non, c'est pas possible, en fait, sur un stage d'acquérir toutes les connaissances. En fait, si on part de zéro, si on n'a jamais utilisé des outils de notre vie, on va pas, en une semaine, apprendre à utiliser les outils et apprendre à fabriquer une éolienne. Par contre, c'est pour ça qu'on s'est donné la possibilité aussi. Enfin, les gens peuvent revenir une fois qu'ils ont fait un stage. L'idée, en fait, c'est de pouvoir revenir sur d'autres stages pour se former eux-mêmes. Et puis, s'ils ont envie, de transmettre ça derrière.
Mais là, ça devient assez cher, alors. Ça devient cher.
Alors, ça devient cher, sauf qu'en fait, on paye le premier stage. Et puis après, les autres stages, on peut revenir...
Tant qu'on veut.
Tant qu'on veut, gratuitement, dessus, ouais. Donc, au final, ça revient le prix d'un stage.
Gilles Longuet.
En fait, l'idée, c'est qu'on paye les frais de formation quand on participe au premier stage, mais on n'a pas tous, on vient pas tous du même parcours, effectivement, du même bagage, patati patata. Mais du coup, on n'a pas besoin du même temps en fait, pour se former. Et du coup, si les gens ils ont besoin de revenir 2 ou 3 fois, ou 4 fois, ou 5 fois, c'est pas un problème, en fait. Après, on règle les petites histoires d'hébergement, de repas, etc. Mais en dehors de ça, il n'y a pas de frais de formation. Pour la plupart des stages, je dirais, il n'y a pas de frais de formation... à repayer, quoi.
Regarde ton trait sur le côté. Là. T'as vu, là, on l'a mangé, et là, on est un peu au-dessus. Ouais. Donc c'est peut-être plus de ce côté-là qu'il faut attaquer. Là.
En fait, au bord, ça va, ça mord bien, mais c'est au milieu que j'ai du mal.
Il commence peut-être à être plus dur. On arrive un peu vers le dur.
Ouais. Je crois que j'ai enlevé un peu, là. Je suis pas sûr.
Allez, allez, on va essayer. Ne soyons pas avares de mesures. Ah, bah peut-être un peu. Je suis un tiers, là, tu vois, toi.
Alors, Yacine, vous êtes Libanais, mais vous vivez en Belgique.
En Belgique, à Bruxelles.
Et en fait, l'éolienne, c'est pour emmener à Bruxelles? C'est pour
Liban? Non, c'est pour le Liban, chez mes parents, enfin, dans le village. Parce que depuis 30 ans, après la guerre civile, enfin, au Liban, il y a toujours le problème existe de fourniture de l'électricité, de la compagnie, il y a des problèmes, des centraux qui ne sont pas... Voilà, ce qui fait, on reçoit tous les 10 heures, on reçoit 3-4 heures de fourniture de réseau. Et bon, on essaye de trouver une alternative pour survivre avec la situation. Ce qui m'a attiré dans l'éolienne, c'est que enfin, la curiosité, surtout en particularité, ce système-là, une génératrice discoïdale. Ce que je n'ai jamais imaginé un jour, enfin, dans ma tête toujours, un moteur, il a une forme, un moteur comme tout le monde connaît classiquement. Et quand j'ai vu la forme, c'est la curiosité. Bon, j'ai pris contact, il n'y avait pas un stage prévu. On m'a dit, dès qu'il y aura un stage, ils préviendraient. Une semaine après, ils ont pris contact avec moi. Je me suis inscrit et voilà, je suis là.
Alors, vous savez tous sur le moteur discoïdal maintenant ?
Oui. Et certainement, je vais en fabriquer une petite éolienne complète. Oui.
Mais quel intérêt d'avoir ce moteur-là dans une éolienne ?
C'est la facilité de autoconstruction. Parce que le moteur classique, c'est difficile à bobiner, à le faire soi-même. Alors, ce système-là, c'est facile à le faire soi-même.
Donc, elle suffira à alimenter les machines électriques de base.
Oui, de base, voilà, nécessaire. Parce que bon, quand je vais juillet-août chez mes parents en vacances, je regarde dans le frigo, il n'y a pas grand-chose, parce qu'on n'ose pas mettre... Ils sont vite périmés, enfin, parce qu'ils sont en conservation. Ça. Et parfois, la nuit, un petit ventilateur, quand même, pour essayer d'avoir un peu de... parce que chaleur, c'est étouffant.
Mais le vent, ça va, ça vient ?
Moi, j'ai déjà fait des pré-études dans ma région. Et j'ai communiqué l'info, ce que j'ai constaté au formateur ici. Il m'a dit, a priori, je suis dans une bonne situation ou là où il y a un gisement d'air.
Là, j'en ai un peu retiré quand même. Tu vas voir ?
Ouais, c'est parti. C'était ton truc d'avant, ça ?
Ouais, c'était ma mesure d'avant. Si tu vois que c'est pareil, je continue d'attaquer.
Mais... Bon, enfin, toi, ça bloque pareil au tiers. Là. Allez, je marque, du coup, on peut enlever. Ouais, je pense là.
Allez, vas-y.
On va pas tarder à être bien. Ouais, là, il y a un peu plus de jeu, du coup. Ouais. Le tiers, c'est là.
Hein ? Le tiers, il est là, ouais.
Jay Hanal, vous faites partie, vous, des fondateurs ? Vous avez participé au premier stage de Hugh Pigott ?
Oui, le premier stage qui a été fait avec Hugh, c'était mon premier boulot dans la petite éolienne. En 2004, j'ai commencé à travailler avec la société Krug Wind, qui était à Carcassonne. Et on a fait le premier stage, on a invité Hugh de venir en France, de faire un stage petite éolienne avec nous. Et c'était très très sympa. On a passé une semaine avec lui en train de fabriquer l'éolienne. C'est moi qui ai occupé de faire la traduction d'anglais-français, d'aussi trouver toutes les pièces, le matériel. J'ai passé la moitié de la semaine en train de chercher les pièces qui ont manqué. Alors maintenant qu'on essaie d'organiser le stage, on essaie de vérifier qu'il y en a tout possible avant le premier jour. Comme ça, on n'a pas besoin de faire le cours pendant toute la semaine. Et depuis la première année, alors c'était en novembre 2004, et après, on a fait un stage en 2005. En 2006, Hugh est parti en Afrique du Sud pour une année sabbatique. Et après, en 2007, il est revenu en France et on fait un autre stage. Et à cet stage-là, on avait Thomas Plessard, on avait Thomas Gros, qui étaient deux personnes aussi avec qui on avait démarré Tripalium. C'était deux personnes qui étaient très, très motivées autour de la petite éolienne. Et on a dit, à le même temps, que de faire un stage par an, c'est un peu dommage. On peut aussi faire un stage... pas chaque mois. Et en final, on a décidé, voilà, on va lancer à faire le stage toute seule avec un peu l'avis, un peu le conseil de Hugh. Et on a fait un stage en février, après on a fait un autre stage en avril, après un stage en mai. Et aujourd'hui, avec l'association Tripalium, il y a environ 20 stages par an.
20 stages par an ?
Oui, 20 stages par an.
C'est énorme, non ?
Un peu partout en France. Oui, c'est pas mal.
Et vous arrivez à faire les courses à chaque fois ?
Voilà, donc, nous, ça va, comme on arrive avec les camions bien chargés avec tout notre matériel, ça marche assez bien. temps en temps. Quand, il y a 2 semaines, j'ai fait un stage dans une université à Turquie. Le CELA, j'ai venu en avion et j'avais un petit sac à dos avec quelques outillages pour travailler le bois. Et avec quelques aimants pour utiliser pour fabriquer l'alternateur. Et le reste, on a trouvé direct sur place. Alors, on peut faire, c'est fait plus facile comme on trouve tout le matériel en avance. Après aussi, on peut faire direct sur place, en train de trouver à gauche et à droite.
Mais par contre, ici, à Valence, où nous sommes aujourd'hui, tout le monde dit et a l'air d'apprécier le fait que c'est quand même très pratique d'avoir tous les outils sur place, d'avoir absolument tout le matériel nécessaire. Et j'aimerais que vous nous parliez de cet endroit où nous sommes. Parce qu'en fait, on est, j'ai plaisanté tout à l'heure en disant on est dans la maison mère, mais ça a fait sursauter tout le monde. Puisqu'en fait, ici, on est dans une entreprise, mais qui est quand même liée à Tripalium. L'entreprise Tiol.
Tiol, c'est une société que j'avais commencé en 2007 avec l'idée de faire la formation autour de la petite éolienne. La formation, si c'est pour les installateurs, ou sinon, c'est pour la personne qui voudrait apprendre à fabriquer une petite éolienne. Et c'est commencé plus ou moins le même temps qu'on a démarré aussi Tripalium, avec l'idée
que... Est-ce que ce n'était pas exactement le même but, Tripalium? Faire de la formation pour les personnes qui voulaient du petit éolien?
Oui, c'est correspond, mais aussi le même temps, Tiol aussi, elle fait les éoliennes plus industrielles. On donne la formation aussi aux universités, à les écoles. On fait vraiment les éoliennes en général. Et comme on fait aussi beaucoup l'achat et vente, ou le vente de matériel, c'est plus intéressant de peut être une société qui peut être une association. Et aussi, c'est Tiol qui fait gagner un peu d'argent pour vivre aussi. Ou Tripalium, c'est vraiment une association, un réseau des acteurs autour de la petite éolienne.
Alors, vous allez nous expliquer maintenant la différence que vous faites entre le petit éolien et l'éolien plus industriel. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de travailler sur les deux? Pourquoi est-ce que Tripalium est resté uniquement sur le petit éolien? Si, on l'imagine bien, c'est parce que le petit éolien, c'est celui qui permet à chacun de faire ses preuves, de le faire seul, d'être autonome. Mais pourquoi avoir recours également à de l'éolien plus industriel?
Nous, on propose les deux choses. Chez Tiol, on propose les éoliennes plus industrielles. Ça nous laisse la possibilité de fournir une éolienne qui était fabriquée dans une usine avec une fabrication industrielle qui correspond de temps en temps à nos clients. Après, je trouve aujourd'hui, pour parler de rentabilité d'un côté, sur une machine autoconstruite, la maintenance s'est faite par le propriétaire, l'éolienne s'est fabriquée par le propriétaire. Alors, on a une rentabilité sur le côté matériel qui fait légèrement moins cher qu'une machine industrielle. Après aussi, on a une rentabilité de kilowattheure. C'est quoi un kilowattheure? Un kilowattheure, c'est quelque chose produit par une centrale à charbon, une centrale nucléaire ou pour une machine industrielle. Ça vaut quelque chose. Mais l'énergie qu'on a fait par nous-mêmes, moi je trouve que ça vaut beaucoup plus.
On n'appuie pas trop fort. D'accord. Tu vas passer au travers.
D'accord.
Appuie moins fort. Vas-y. Refais tourner, mais n'appuie pas trop fort. Tu vas percer là. Voilà. Okay. T'as senti, il avait un petit couple. Et à la fin, t'as un petit couple, le bruit change.
C'est bien là, ça va être là.
On est à 1 cm et demi. Là, on est à 2 cm pratiquement. Donc là, on voit qu'il y a des différences. Pourtant, par rapport à l'axe, on est exactement centré. Mais comme la nacelle, elle n'est pas tout à fait juste, que la pièce, le stator, il n'est pas non plus fait avec des cotes exactes, mais le résultat fera que ça marchera quand même. Ce sera,
ça sera efficient. On compose avec les imperfections. Voilà.
Toutes les imperfections sont compensées les unes par rapport aux autres en faisant un montage délicat. Comme on sait qu'on a des imperfections, on en tient compte et au final, ça marche bien. C'est comme pour faire une mesure, on peut avoir un instrument qui est faux, mais si on le sait, et si on sait combien il est faux, dans quel sens, eh bien on peut corriger.
C'est complètement une autre façon de penser que la façon actuelle qui est très...
Je crois que les êtres humains, ils ont toujours pensé comme ça pour rectifier les choses, sauf qu'avec la technologie, on arrive à avoir des normes. Et nous, au lieu d'avoir des normes, on a du bon sens et on l'utilise pour aller vers un résultat qui soit performant.
Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve très frappant que, au cours du stage, les gens apprennent qu'une une éolienne, elle n'a pas besoin d'être parfaite, elle n'a pas besoin d'être aux normes. On peut composer avec les défauts de ce qu'on a fabriqué. On peut arriver à une éolienne qui fonctionne bien, qui marche bien, même et malgré et avec les défauts de ce qu'on a fait. Gilles Longuet.
Alors, cette machine, en fait, elle a la particularité justement d'être simple et robuste. Et du coup, comme elle est simple et robuste, elle a plein de petits endroits où en fait on a des tolérances, en fait. Et du coup, c'est pour ça que ça se prête bien à la fabrication pendant les stages, parce que même si on fait pas des pièces parfaites, de toute façon, quand on va assembler, ça marchera. Après, c'est sûr que si on prend soin de chaque partie, la machine sera un peu mieux faite. Mais je pense que le plus important, en fait, dans l'éolien, en fait, c'est pas si on parle du rendement de la machine, en fait, le plus important, c'est où est-ce qu'on l'implante, en fait. Parce que si on a une machine qui fait 32 ou 34% de rendement, si on la met dans une soufflerie, si on la met dans un endroit qui est au milieu des arbres, en fait, ça n'a pas d'importance, en fait, son rendement. C'est le plus important, en fait, dans l'éolien, c'est le site, en fait.
Gaël, c'est ça ?
Pour reprendre là sur le... Enfin, on voit qu'on n'a pas du tout le même public. Moi, j'ai fait avant du petit éolien industriel et on voit qu'on n'a pas du tout le même public. En fait, c'est deux choses qui ont presque rien à voir. En fait, c'est pas du tout les mêmes démarches derrière. Et je pense que quelque part, c'est la différence entre faire ses confitures et acheter ses confitures. Voilà quoi. Il y a le fait d'avoir fait son outil de production d'électricité qui est valorisant. Et il y a aussi une démarche derrière que ce qui nous tient un peu, on va dire, c'est l'énergie, en fait. Ce qui, dans le monde en général, en fait, ce qui tient les rênes, c'est des entreprises qui ont un rapport à l'énergie, en fait. Donc, les déplacements, donc, ben voilà, on déconstruit un peu ça, et donc, forcément, ça ouvre aussi plein de choses, quoi.
Mais alors, justement, est-ce que vous le déconstruisez, ou est-ce que ce que vous faites reste anecdotique ? C'est ça que j'essaye de comprendre. C'est-à-dire, est-ce que, avec ce petit éolien individuel, qui a été fabriqué maison, qui a été fabriqué par un groupe, un collectif, c'est-à-dire on est complètement, en gros, dans le modèle inverse du modèle qui est celui de notre société. Est-ce que avec ces petites éoliennes individuelles, on arrive à proposer vraiment un autre modèle d'énergie, ou bien est-ce qu'on reste toujours à la marge et est-ce que de toute façon, il va toujours falloir continuer à avoir ces énormes installations d'éoliennes industrielles comme on est en train d'en mettre un peu partout et qui d'ailleurs sont souvent assez controversées. Est-ce qu'il y a une cohabitation entre un système gigantesque et des toutes petites choses, ou bien est-ce qu'on est au début d'un autre système ? Gaël César.
Moi, je verrais deux trucs. Alors déjà en restant sur le petit éolien et ce qu'on peut faire en comparaison d'autres trucs, au début c'était quelque chose de vachement marginal et même vu par, on va dire, les professionnels comme quelque chose d'assez marginal. Et au final, c'est quasiment les seules choses qui sont encore existantes. Il y a eu des fabricants qui sont nés, qui ont disparu, et ce type d'éolienne est toujours là. Et là, à l'heure actuelle, je pense que c'est ce type d'éolienne qui est le plus fabriqué en France, par exemple, et qui est fabriqué de partout dans le monde et qui existe. Et maintenant, on commence à avoir des gens qui commencent à dire qu'il y avait des éoliennes industrielles chez eux et des gens qui étaient plutôt sceptiques, vraiment sceptiques par rapport à ça, qui disent « Eh ben, appelez-les, ils sont encore là, en fait. On a commencé en même temps, mais il y a 10 ans, je ne leur aurais pas dit ça, mais maintenant, ils sont encore là. Ça, on voit que ça tourne, en fait, et donc appelez-les, quoi. » Donc, par rapport à cette niche, entre guillemets, il y a un côté marginal, mais en même temps, il y a un côté où je pense que c'est quasiment grâce à ce type d'éolienne qui est quasiment le plus installé en France, finalement. Et après, en comparaison aux grandes éoliennes, est-ce que c'est la solution pour sortir de ce monde-là ? On est sur des petites productions, on est sur des trucs hyper locales et qui sont... je pense que c'est un grain de sable, quand même. C'est une avancée. Après, on n'est aussi pas sur les mêmes... échelle, et puis après ça dépend aussi les évolutions des gens, quoi. Il y a des gens avec ces toutes petites machines, ils sont complètement en autonomie et ils ont besoin de rien de plus, et il y a d'autres gens avec ces petites machines, ils ne pourront rien faire parce qu'ils ont des gros besoins, soit parce qu'ils aiment vivre dans un confort, soit parce qu'ils ont des activités qui demandent aussi de l'énergie, quoi.
Jay Hanel.
C'est pour voir aussi que en termes de la différence entre les petites éoliennes autoconstruites et les petites éoliennes industrielles, aujourd'hui, en termes de rendement d'une machine, en termes de production en fonction du diamètre ou de la surface balayée pour une éolienne autoconstruite, on a reçu de voir en termes de la même production, de temps en temps, mieux que la machine fabriquée industriellement. Alors, on a testé le CEPEN, c'est le site de test.
Vous avez testé quoi?
Au CEPEN. Le CEPEN, c'est le site de test de petites éoliennes nationales qui est à Castelnaudary. On a fait tester la petite éolienne de modèle Pigot. Là-bas, pendant, maintenant, c'est fait, on a fait 6 mois, mais on a continué le test encore. Et on avait le même rendement, même mieux que beaucoup de machines testées sur site. Alors, on fait en production avec une machine fabriquée chez quelqu'un dans le garage, dans la grange, qui produit autant d'énergie, même plus que la machine fabriquée par l'industrie.
Oui, mais on reste tout de même sur un modèle de consommation très individuel. Et en fait, la question que je me pose, c'est, puisque vous avez un modèle aussi collectif pour la façon d'apprendre et de construire et de fabriquer, comment est-ce qu'ensuite, ces éoliennes, une fois construites, permettent aux gens de rester reliés les uns aux autres? C'est-à-dire, comment est-ce que le sens du collectif existe quand on a sa petite éolienne dans son, au fond de son jardin?
Oui, mais quelque chose qui est introduit avec la petite éolienne autoconstruite, c'est le fait qu'on participe sur la fabrication d'une éolienne. Alors, sur le stagiaire aujourd'hui, on a 15 stagiaires qui sont venus pour fabriquer une éolienne cette semaine. Sur ces 15 stagiaires, peut-être il y a un ou deux qui peuvent voir une éolienne chez eux. Les autres, ils habitent en centre-ville de Lille, ils habitent à Caen, ils habitent dans les villes qui ne peuvent pas voir une éolienne. Mais quand même, ils peuvent participer sur la production d'énergie éolienne en participant sur un stage. Et c'est quelque chose avec une machine industrielle, on ne peut pas faire. Parce qu'on ne participe pas sur la fabrication de machine et la fabrication d'éolienne. On participe seulement, voilà, ici, on peut participer vraiment sur la fabrication d'une petite machine, même si on n'a pas la place pour installer chez nous.
Gilles Longuet?
Effectivement, il y a ce petit côté... Je fais un peu mon petit truc parce que, en fait, j'ai aidé à fabriquer une machine qui produit, en fait, maintenant, en fait, de l'électricité. Mais aussi, après, il y a ce côté où la personne qui a sa machine, au bout d'un an, quand elle veut faire sa maintenance, hop, elle peut renvoyer un petit mail à tous les gens qui ont participé au stage, ou même à d'autres gens qu'elle a rencontrés autour de chez elle et que ça intéresse ou quoi, qui dit hey, moi, je fais ma petite maintenance. Du coup, je vous invite tel jour, je prépare à manger, venez, on passe la journée, on regarde, descend l'éolienne, on va regarder si elle a besoin d'un petit coup de peinture, si elle a besoin de ceci, cela, et puis comme ça, on passe un bon moment ensemble, en fait. Par exemple, là, on a eu un bon retour, en fait, on a quelqu'un chez qui on avait fait un stage il y a 2 ans, et pour les 4 mégawattheures produit par son éolienne, a envoyé en fait un film qui avait été tourné en fait. Il y avait eu pas mal de rush de prix pendant ce stage-là. Et en fait, ils ont monté un petit film dessus pour fêter en fait les 4 premiers mégawattheures produits. Ils ont envoyé en fait le lien pour aller regarder le film, quoi. Et c'est super agréable en fait.
Gaël César.
Et il y a aussi le fait que, donc effectivement, chacun a sa petite unité de production, mais il y a le côté réseau continue quand même derrière, justement, sur la maintenance et sur ce que devient après cette éolienne, en fait. Il y a les gens qui viennent, ils sont de partout en France, et donc des fois, ça arrive, voilà, on va dire quelqu'un a une éolienne, et il avait comme référent une personne de l'asso, et puis cette personne de l'asso, elle est à l'autre bout de la France, elle me contacte, moi je suis dans le coin, et il me dit, tiens, va voir, et c'est toujours des gens... hyper intéressant en plus. Donc tu vas pour réparer l'éolienne et tu restes 3 jours. Donc il y a tout ça qui est intéressant.
Marc de Lille.
Du coup, ouais, juste j'ai eu l'impression que on n'était pas forcément toujours clair quand on disait le mot éolienne industrielle. En fait, nous dans nos bouches, généralement on parle de petites éoliennes industrielles, mais qui restent sur des échelles de petite puissance. On parle pas de ces grandes éoliennes qui font
D'accord, on n'est pas dans les hydroliennes. Voilà, les...
Quand on emploie ce mot, parce que là, on n'est plus du tout dans le même domaine et on ne comparait pas par rapport à ça, du coup.
Et donc, par rapport aux petites éoliennes industrielles, vous, c'est le côté fait maison qui est important, plus le fait que, Jehan le disait tout à l'heure, la productivité est au moins aussi bonne. Alors, j'ai encore une question peut-être un peu plus technique. Pourquoi est-ce que les pales sont en bois ? Alors que partout ailleurs, elles sont dans des alliages profilés comme des ailes d'avion. Et là, on a l'impression tout à coup de retourner au Moyen-Âge, à l'époque où tripalium, ça voulait encore dire instrument de torture. Gilles Longuet.
En fait, pourquoi ? C'est assez simple. C'est que c'est un super bon matériau en fait, quand on veut faire de la pièce unique. Fabriquer des éoliennes en composite, comme c'est fabriqué dans l'industrie, ça veut dire faire des moules contre moules avant de réussir à faire 3 pales. Ça prend... En fait, on fait déjà le travail. Alors que du coup, on peut directement en fait sculpter notre pale dans le bois. Ce qu'on recherche en fait, c'est avoir des pales légères, avoir des pales qui restent souples, mais qui sont aussi robustes pour résister au vent. Et après, on cherche aussi un matériau qui résiste en fait aux intempéries. Il y a plusieurs bois en fait qui correspondent exactement à ça. Et du coup, ça permet en plus que chacun puisse le faire parce que il faut 3 ou 4 outils à bois. En plus, on le fait à la main. On n'utilise pas de machine. Enfin, on fait tout au ciseau, à la plane ou à la vastringue, c'est super agréable. Enfin, moi, je trouve que c'est un peu de la méditation de sculpter une pale, quoi. C'est hyper agréable, il faut se vider la tête, être vraiment dans ce qu'on fait et tout. C'est un bon moment et ça fait pas de bruit.
Oublier la disqueuse.
Ouais. On essaie de se mettre... Voilà, c'était dans l'atelier, du coup, c'est un petit peu serré. Mais c'est pour ça qu'on fait ces 3 ateliers. C'est que dès qu'on peut, en fait, on les écarte un petit peu. Parce que quand t'es là... avec ton petit rayon de soleil en train de sculpter ta pale, c'est juste magique comme moment. T'as pas du tout envie d'entendre une meuleuse, t'as pas du tout envie de sortir des gros outils, faire de la résine, ça pue, machin, c'est vachement plus agréable.
Est-ce que ces éoliennes, elles se ressemblent toutes, comme les éoliennes industrielles qui sont sur un modèle absolument unique, ou bien est-ce qu'elles ont des singularités, une personnalité en quelque sorte, Marc Delisle?
En fait, on a une partie de l'éolienne où on a assez de liberté, qui est le safran, en fait, la queue qui lui permet de se diriger dans l'axe du vent, où on doit juste respecter des surfaces, en théorie, même si on essaye de garder des formes pas trop complexes pour pas qu'elles soient fragiles, mais on a cette particularité-là. Et du coup, on a des élections du plus beau safran ou des choses comme ça. Et donc, principalement, c'est le safran qu'on va personnaliser.
Oui, du coup, chaque éolienne est vraiment unique. Et d'ailleurs, c'est aussi une particularité un peu, on va dire, française par rapport aux pigottes. Cet angle, justement, on essaye de personnaliser au maximum chaque machine à travers le safran. Et du coup, il y a même des gens qui ont un peu détourné ça parce qu'il y a certaines lois qui complexifient un peu l'installation. Et donc, ils ont déclaré ça comme œuvre d'art, en fait. Où justement, c'est beaucoup plus... une fois que c'est une œuvre d'art, en fait, on sort des cases, tu peux faire... ils ont déclaré ça comme œuvre d'art pour notamment monter plus haut en hauteur, ce genre de choses.
Et c'est vraiment des œuvres d'art? Vous pouvez nous en décrire 2 ou 3, qu'on imagine un peu?
Moi, je pense que oui, c'est des œuvres d'art. Même les gens se l'approprient, ils leur donnent des petits noms. Il y a Ginette, Petula, enfin... Voilà, les gens qui ont une éolienne, c'est pas juste, ils ont un outil, ils l'écoutent en fait, ils sont en permanence en surveillance, et c'est intéressant de voir, d'autant plus les gens qui sont ce qu'on appelle en site isolé, donc qui sont pas raccordés, donc ils ont l'électricité, leur électricité dépend de l'éolienne, ou quelquefois de panneaux machin, mais ils sont vraiment, ils ont une attention particulière, ils l'écoutent, quand elle fait un peu de bruit, ils sont contents parce qu'ils savent qu'ils sont en train de charger, donc ils vont avoir de l'électricité pour le soir, et ainsi de suite, donc il y a une histoire, en fait, avec ces éoliennes, donc oui.
Jay Hanel?
Oui, il faut dire qu'une éolienne, c'est une machine vivante qui bouge dans le vent. Alors, chaque machine, c'est différent. Même en parlant pas de le safran, qui peut voir la forme différente ou abstraite. Même la conception de la machine, on a une conception qui est même, un modèle qui est le même, mais après, en fonction de la façon de c'est soudé, avec les boutées, avec la façon de c'est démonté, chaque machine, c'est vraiment unique. Je vois une éolienne, je vois tout de suite, ah, celle-là, c'est fabriqué, je me souviens des étapes de fabrication, comment on a fait cette pièce-là. Chaque machine a vraiment leur caractère, et chaque machine, elle a une production qui est adaptée, qui est faite par cette machine en termes de production. Et on voit les personnes qui deviennent vraiment attachées à leurs éoliennes. La personne en Ardèche qui a une éolienne, qui dit chaque fois, je saute, je vois l'éolienne en train de tourner, je rentre dans ma maison, et j'arrête la lumière, j'arrête les autres choses, parce que je dis, mais l'électricité, c'est quelque chose de vraiment précieux. Et il faut que je pense de conserver aussi. Alors aussi, de fabriquer une petite éolienne, c'est pas seulement de produire l'énergie, mais ça nous montre aussi l'importance et la valeur d'une kilowattheure. Et qu'un kilowattheure, c'est quelque chose qui prend beaucoup de travail.
Alors, vous avez fait quoi ce matin?
Rien.
Ça t'a fait quoi? Tu nous racontes? Si on a toujours 3 ateliers, voilà, on va commencer par là. Vas-y. Explique aux autres ce que t'as fait.
Voilà, c'est les 2 cornières qui vont être sur la queue de safran. Bon, il faut régler ça à 90 degrés.
Ce qui est peut-être bien de signaler aussi, c'est les cornières, il faut que le tube il tombe sur le bois, par terre. Là, quand, la première fois qu'on l'avait coupé, les cornières elles allaient en dessous du tube. En fait, c'est pas très bien. Faut demander à Lulu, c'est pourquoi que les cornières ne devaient pas aller sous le tube.
Parce qu'en fait, si les cornières elles sont sous le tube, le safran il peut plus reposer sur la barre de safran en fait. Ça, ouais. Et du coup, l'intérêt c'est d'avoir un plan avec et la barre de safran et tes deux cornières. Les pales, on en est où là? Je vois, il y a des mains sur une pale, on va parler des pales.
Hier soir, on a tracé la ligne des deux lignes importantes, là, des 30 et 50%. Voilà. Et ce matin, on s'est un peu concerté, on a équilibré nos pales, c'est-à-dire qu'on les a comparées. Donc on a mesuré les écarts d'une pale à l'autre, voilà. Et on s'est à peu près calé sur la pale qui était la plus proche de la mesure souhaitée. Voilà. Et donc là, maintenant, on est en train d'attaquer le bord de fuite. En fait, on essaie d'avoir une surface plane entre le bord de fuite, 1 mm là, et la ligne des 30-50%. Voilà.
Le gros intérêt là qu'on a eu de ce qu'on a fait là, c'est qu'on s'est aperçu en fait que toutes les pales n'étaient pas exactement de la même épaisseur, parce que Jay l'avait expliqué hier, mais en fait on n'avait pas vraiment repris cette étape là après. Donc on l'a refait, et donc ce qui était important là, c'est ce qu'on s'est aperçu, c'est par exemple en bout de pale, il y avait une pale qui faisait 2,5 mm de plus que les autres. Donc du coup c'était quand même assez important vu que la cote ça devait être 8 mm, ça fait quand même une grosse marge d'erreur. Donc on a remis nos trois pales côte à côte, on a recontrôlé toutes les épaisseurs, on s'est aperçu qu'il y en avait une qui était pratiquement mais parfaite quoi. Donc on a été obligé d'essayer de tendre vers la perfection sur les deux autres aussi. Donc elles ont été reprises et on a retravaillé justement pour avoir les bonnes épaisseurs. Après, il y avait pas mal de bruit ce matin du côté de la ferraille, du coup je sais pas ce qui a été fait. Et vous avez fait quoi? Qu'est-ce que vous avez fait ce matin?
Ce matin sur la nacelle, on a terminé le travail qui était commencé hier. Il y avait une pièce qui avait déjà été commencée, il y a l'axe principal qui était monté sur le support qui va aller vers le H qui tient le moyeu. Ça, c'est des pièces qui sont assez complexes, mais avec les explications qui sont données dans le manuel, qui est très bien fait, il y a des tableaux. On a des cotes et grâce à ces cotes, on peut facilement se repérer et trouver les dimensions qui vont bien, trouver comment on les positionne et ensuite on finit par les souder. Donc la soudure, on n'est pas des experts en soudure, mais même si on ne les fait pas très bien, comme c'est assez surdimensionné et qu'on peut refaire les soudures, on peut s'entraîner même à les faire, on arrive à faire quelque chose de solide et qui convient à ce qui est attendu. Et même si la pièce finale est complexe, ce ne sont que des opérations assez simples qui se succèdent et qui font qu'à la fin, c'est facile à réaliser, quoi. On a l'impression qu'on peut y arriver facilement. Enfin, on voit que c'est fait, on y est arrivé.
Cette émission est maintenant terminée. Vous pourrez la télécharger et la réécouter sur notre site franceculture.fr. Vous y retrouverez le lien vers le site de Tripalium et notre revue de web hebdomadaire. Notre numéro de téléphone, c'est le 01 56 40 36 72. Notre adresse, Terre à Terre, France Culture, 116 avenue du Président Kennedy, 75 220, Paris, CEDEX 16. Terre à Terre vous est proposé par Ruth Stegassi, préparation, documentation, Laurence Genepin, Anne Gouzon, mixage, Anil Bosselet, réalisation, Jean-Christophe Francis. Bonne semaine à tous.